Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast France Télévisions. Le podcast des maternelles. Alors déjà, vous rappelez qu'on vient de mettre en ligne un épisode inédit du podcast des maternelles. Le thème, c'est « Les parents d'aujourd'hui se mettent-ils trop la pression ?» L'épisode est déjà en ligne, c'est une heure d'inédit, un échange entre différents spécialistes, énormément de témoignages, beaucoup de conseils. Donc si vous vous sentez concerné par ce sujet, n'hésitez pas, il y aura une heure. Et après ça, plus de pression, le bonheur absolu, vous verrez, votre vie sera un long fleuve tranquille. Bref, aujourd'hui, un épisode autour du baby clash. Le baby clash, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce que devient le couple après l'arrivée du bébé, où évidemment avec les tensions, avec la fatigue, avec l'extrême fatigue, avec les reproches, eh bien dans un certain nombre de cas, les relations se tendent, voire se tendent fortement. On va donc entendre le témoignage de Mélina, la maman de Louis et de Zélie, et nous serons avec un psy qui est également sexologue juste après, il s'appelle Sébastien Gardero. Vas-y Agathe Le Caron, c'est à toi.
Alors l'arrivée d'un bébé peut parfois créer de grosses discordes dans le couple, on le sait, là je vous donne pas un scoop, c'est ce qu'on appelle le baby clash. Bonjour Mélina.
Bonjour.
Mélina, vous avez 32 ans, vous êtes la maman de Louis qui a 5 ans et demi et de Zélie, quel joli prénom, qui a 2 ans. Alors c'est vrai que vous et votre conjoint, vous fantasmiez cette vie de famille, bah, comme beaucoup de couples évidemment, et l'arrivée de vos enfants a bouleversé cette même vie de couple à un point que vous n'imaginiez pas. Disputes au quotidien qui ont bien failli vous mener à la séparation, mais ça s'est bien terminé. Mélina, merci de venir parler de ce sujet tellement important. Il y a beaucoup, beaucoup de couples qui vivent la même chose et on va voir qu'il y a des solutions. Alors, vous avez rencontré votre conjoint Julien il y a 9 ans, vous aviez 23 ans, c'était à Paris. 2 ans après, vous êtes super amoureux, vous décidez de faire votre premier enfant. Mais vous avez vous craignez une insuffisance ovarienne précoce. Donc, vous entamez un parcours de PMA. Vous tombez enceinte, en fait, assez rapidement. Et pendant la grossesse, eh ben forcément, vous vous projetez. Et vous vous projetez comment ? Qu'est-ce que vous imaginiez ? Comment vous vous imaginiez en couple au moment de l'arrivée du bébé ?
Comme dans les films, je pense qu'on idéalisait cette parentalité comme elle peut nous être projetée par la société. On s'imaginait lui jouer avec les enfants sur le canapé, moi préparant des bons petits plats, dormir les nuits au début, c'est compliqué, mais après ça va vite rentrer dans l'ordre. Donc on pensait vraiment vivre sereinement comme on l'imagine, on fantasmait en fait vraiment cette parentalité.
Ça. Et en fait votre grossesse déjà, c'était pas ce que vous imaginiez ?
Non, en fait mon mari s'est un petit peu désinvesti pendant la grossesse. Je pense que moi, je suis devenue maman dès le test de grossesse. Lui, ça a été beaucoup plus compliqué. Et de voir mon corps changer, de voir ma libido également changer. Au début, bah, c'était compliqué avec les nausées, etc. Et puis après, c'est moi qui avais une libido débordante. Et lui, imaginer avoir des rapports avec, avec mon corps enceinte, avec le bébé, etc. C'était impossible pour lui. Donc, on était jamais en
Vous n'étiez pas en accord, oui.
C'est ça. C'est ça.
Oui, ça arrive fréquemment que le conjoint, voyant ce corps de femme enceinte, face à un blocage. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure avec notre expert. Alors, vous avez eu un accouchement plus fatigant, césarienne. Comment s'est passé le retour à la maison avec Louis ? Est-ce que déjà vous avez l'impression que votre conjoint s'occupait du bébé, s'investissait dans son rôle de père ? Si pendant la grossesse, il y avait un petit manque, est-ce que là, il a été comblé ?
Alors, les 5 jours à la maternité, oui. Mmh. Il était dans soutien énorme physiquement, même pour moi qui subissais un petit peu ce postpartum, post-césarienne. Mais très vite, quand on est rentré, il s'est désinvesti en fait, de ce rôle de père et il a repris sa vie comme avant. Donc, il a continué à aller au sport, à rentrer tard le soir. Et il s'étonnait en fait, de mon état de fatigue. Les phrases que j'ai plus entendues, c'est « mais dors quand bébé dort ». Le seul problème, c'est que mon fils avait un RGO qui n'était pas diagnostiqué.
Donc un reflux gastro-œsophagien, oui.
Il pleurait tout le temps. Enfin, c'était des pleurs interminables. Et la nuit, il dormait très peu. Du coup, moi aussi. Et j'ai fait l'erreur, ça c'est un petit peu de ma faute. Je pensais que je pourrais me proposer pendant la journée quand bébé dormait. Donc j'ai proposé à mon mari de ne pas faire les nuits. Donc, je m'occupais de toutes les nuits. Sauf que les nuits, ce n'était pas simplement me réveiller, donner un biberon et retourner me coucher. C'était vraiment des heures à marcher dans le salon pour essayer de calmer ses pleurs. Et j'étais vraiment épuisée. Et j'en ai parlé à un médecin, mm-hmm. à mon gynécologue, qui m'a dit bah, « c'est normal, vous venez d'accoucher, vous êtes maman, toutes les mamans sont fatiguées ».
Donc en gros, lui, il reprend une vie totalement comme avant, puisqu'il retravaille, il continue le sport, etc. Donc ses journées sont les mêmes, il dort normalement, et vous, votre vie n'a plus rien à voir avec celle d'avant la naissance de votre bébé. Alors au bout de 4 mois, en plus, il y a des analyses qui révèlent qu'il y a un bout de placenta qui est resté dans votre utérus. Il faut vous opérer en urgence. Après l'anesthésie, vous ne vous réveillez pas. Vous faites 7 crises de convulsions. Vous vous retrouvez plusieurs jours en coma artificiel. Ça dure 4 jours quand même, ce coma. C'est le choc. Là, Julien n'a pas d'autre choix que de prendre en charge son rôle de père. Comment ça s'est passé ?
Très compliqué, parce que déjà, il avait peur de me perdre, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas pourquoi j'avais ces crises convulsives. Ma famille était d'un grand soutien, et mes amis également, à ce moment-là, ils étaient tous auprès de lui. Mais il s'est retrouvé d'un coup avec ce bébé de 4 mois, dont il ne s'était quasiment pas occupé, en tout cas, pas investi. Et quand je suis, quand le diagnostic a été posé, en fait, ça a été la cause d'une dépression postpartum. Mmh. En fait, je dormais que 2 heures par nuit depuis 4 mois. En plus, j'avais ce bout de placenta qui me créait des désordres au niveau de l'utérus, et j'étais épuisée. En fait, j'étais pas simplement fatiguée, j'étais épuisée. Et c'est une dépression postpartum qui m'a créé ces crises convulsives parce que mon cerveau préférait dormir. Il a utilisé cette anesthésie générale pour dormir. Il voulait pas se réveiller.
Et Julia, évidemment, là, a pu comprendre un petit peu de quoi étaient faites vos journées, puisqu'il n'a pas eu le choix que de s'occuper de votre fils. Alors, votre fils a 1 an, vous déménagez à Aix-en-Provence. Comment se passent les premiers jours de ce changement de vie ?
Compliqué, parce qu'il continuait à travailler sur Paris le temps de déménager avec nous. Donc, je me suis occupée du déménagement toute seule, avec cet enfant aux besoins intenses, très intenses. Et c'est vrai que je me sentais très seule. Je me sentais très seule. On se disputait tout le temps. Enfin, c'était des hurlements en plus, chose à pas forcément faire quand il y a un bébé dans les parages, mais on n'arrivait plus à gérer le quotidien. Et moi, c'est là où j'ai ouvert un compte Instagram, au départ pour parler vraiment de ma vie de maman sans tabou et d'expliquer ma perte de libido, les crises qu'on vivait au quotidien avec mon conjoint.
Donc, la libido, pour le coup, après l'accouchement, vous l'avez perdue totalement.
Oui, totalement. Mmh. Et c'est là où, donc, sur La Famille Tortue, j'ai commencé à parler de ça et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mamans, finalement, qui vivaient la même chose
Bien
que
sûr.
Moi et de papas aussi, qui m'en parlaient de l'autre côté. Et tous, on se disait, mais on pensait être seuls. Alors qu'en fait, on était une grande communauté à pouvoir discuter tous ensemble de ces sujets-là.
D'où l'importance de votre témoignage aujourd'hui. Alors, vous avez quand même décidé de faire un deuxième enfant, toujours avec la peur, à cause de cette insuffisance ovarienne, de ne pas pouvoir faire la famille que vous imaginiez. Vous vous êtes dit, au pire, de toute façon, tant pis, je serai une famille monoparentale, on se séparera, mais j'aurai mon deuxième enfant. Alors, c'est vrai qu'il s'est un peu désinvesti pendant la PMA, votre conjoint, mais vous avez quand même épaulé pendant cette seconde grossesse. Vous accouchez le 24 mars 2020 de Zélie, en plein confinement. Est-ce que cette fois, Julien a pris sa part ?
Oui. Pour nous, le confinement a été vraiment une bénédiction. Mmh. Il a pu être avec moi H24 et il a pu vraiment s'occuper de sa fille et de voir ce que c'était que de s'occuper d'un nourrisson. Mmh. Et donc le fameux « dort pendant qu'elle dort », non, c'est pas possible. La perte de libido, lui aussi, il l'a connu à ce moment-là à cause de la fatigue. Et il a compris, en fait, ce que j'avais vécu pour Louis. Il s'en est voulu également de ce désinvestissement-là pendant mon premier postpartum.
Mais les disputes n'ont pas cessé pour autant ?
Non. En fait, c'est à la reprise de son travail, quand il a dû repartir. Moi, j'ai entamé une formation pour devenir naturopathe. Donc, j'étais à la maison, je m'occupais de mon compte Instagram, plus de mes études. Et comme je faisais tout à la maison, lui ne comprenait pas forcément le fait que ça soit quand même un travail et une charge énorme. Enfin, la charge mentale était juste dingue. Je devais m'occuper de toute la logistique. Et là, les disputes ont repris, mais plus uniquement sur son rôle de père, où en fait, je ne lui ai pas laissé la place. Je m'en rends compte aussi, rétrospectivement parlant, que dès qu'il faisait quelque chose, je le critiquais. Donc lui, après, il ne voulait plus faire. Et là, c'était différent. Ce n'était pas sur son rôle de papa que je le critiquais, mais c'était sur son rôle d'homme, en lui disant, mais moi aussi, je suis une femme, moi aussi, j'ai des besoins, en fait.
Alors, 1 an après la naissance de Zélie, vous vous dites, mon couple, c'est mort, quoi. Là, franchement, ça ne reviendra pas. Il vous surprend. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette happy end?
Oui, pour moi, on allait divorcer. Enfin, d'ailleurs, je lui ai dit plusieurs fois, c'était à chaque fois, je disais, je veux divorcer. Et en fait, c'était le jour de la fête des mères. Il a organisé toute une journée. Il m'a demandé de préparer un sac avec juste un maillot de bain et une serviette et un livre et de me mettre devant le portail de la maison. Et là, j'ai une amie qui est arrivée, qui a fait semblant de me kidnapper. Et elle m'a emmenée dans un super restaurant qu'il avait réservé. Et ensuite, elle m'a emmenée au spa qu'il avait réservé également. Quand je suis rentrée à la maison, il avait tout chamboulé le salon. Il avait fait de la déco. Il avait acheté un rétroprojecteur. Il avait fait un film de nous. Et à la fin du film, donc, il y a eu du champagne, tout ça. Et il m'a dit... Je me rends compte qu'en fait, je t'ai délaissée en tant que femme. Je t'ai plus aimée en tant que femme. On n'est que parents. Et en fait, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de notre vie. Je vais te montrer que je t'aime en tant que femme, en tant que mère, en tant que tout. Et je vais je vais essayer de re-sauver notre couple. Moi, j'ai...
Vous avez dû halluciner quand même.
Oui. Là, ça a été assez fou. En fait, j'ai ressenti ce que je n'avais plus ressenti depuis un moment. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je n'avais plus d'amour pour lui. Il y avait des forts sentiments, mais la flamme était complètement éteinte. Et il a suffi d'une journée, en fait, pour...
Tout rallumer.
Pour tout rallumer, ouais.
C'est-à-dire que là, les papillons dans le ventre et tout est revenu.
Tout est revenu, c'est ça. La libido aussi. Mmh. Le fait de me sentir femme, de me sentir regardée, de me sentir... apprécié par ce que je suis, ça m'a ramené ma libido, finalement.
Et aujourd'hui, comment ça va, alors ?
Ah ben, ça va super bien, on a plein de projets. N'empêche pas qu'on a des fois des disputes de couple, hein, comme tout le monde, pour la vaisselle pas rangée ou le linge à côté du panier. Mais voilà, c'est plus du tout la même chose. Je pense qu'on a vécu les heures les plus sombres de notre couple, qu'aujourd'hui, on est plus fort. Nous, à l'inverse, il y a beaucoup de parents qui disent que le bébé renforce leur couple. Nous, ça a failli le détruire par deux fois. Mais maintenant, en fait, en ayant ramé surtout lui, parce que moi, j'y croyais plus, lui, il croyait encore beaucoup, ça fait qu'aujourd'hui, on est plus amoureux que jamais, on a plein de projets.
Nous sommes avec Sébastien Garnero. Bonjour, vous êtes psychologue et sexologue à Paris. Alors, on a plein de questions, évidemment, à vous poser. On le voit dans le témoignage de Mélina. En fait, l'arrivée du bébé a totalement bousculé l'image de la parentalité rêvée du couple, tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait fantasmé pendant la grossesse. Pourquoi est-ce que la naissance peut détruire carrément le sentiment amoureux, ou en tout cas, l'annihiler, l'endormir?
Oui, alors justement, l'exemple de Mélina, il est tout à fait caractéristique. Déjà, on voit tous les facteurs, c'est-à-dire un enfant tout à fait désiré, on voit PMA, insuffisance ovarienne, avec une image aussi idéalisée, hein, de l'enfant fantasmé, elle en parle très bien. Et puis, à un moment donné, cette grossesse qui se passe, l'enfant arrive, et puis la confrontation avec l'enfant imaginaire, qu'on a fantasmé, qu'on a idéalisé, parce que c'est tout à fait aussi important, cet enfant imaginaire, pour cette construction psychique dans la parentalité. Et puis, brusquement, l'irruption de l'enfant réel, là, qui chamboule tout dans nos habitudes de vie, dans les modalités d'être en couple, puisque on passe de 2 à 3. Donc, cette triangulation...
Et tout est un équilibre à réinventer, en fait.
Exactement. Donc, tout un équilibre à réinventer, sans compter la charge mentale, là, on a vu, qui était surtout portée par la maman. Hein, le papa se réveille au moment où il y a effectivement un incident grave, hein, quand même une urgence médicale. Et puis, ce postpartum, aussi un autre facteur, là, qui va aussi influer et qui va créer aussi cette difficulté. Le papa se réveille et puis rejoue un peu son rôle parce qu'il est confronté à cette réalité aussi. Et ensuite, on voit tous les mécanismes de suppléance qui sont mis en œuvre par Mélina. La mise en place, par exemple, d'un groupe Instagram qui est un équivalent d'un groupe d'entraide, finalement, où elle se déculpabilise, elle n'a plus honte, finalement, de ressentir ces choses-là. Et le déroulement après, cette reprise qui va avec, je pense que c'est vraiment un très bon exemple, tout à fait intéressant.
On a reçu beaucoup de questions, évidemment. Tout ce chamboulement, l'arrivée du bébé, ça questionne. Regardez la question en vidéo de Noémie.
Bonjour la Maison des Maternelles, je suis Noémie, la maman d'une petite Sibylle qui a 9 mois. Et je voulais savoir si tous les couples étaient obligés de passer par une zone de turbulence à la naissance de bébé. Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors oui, on va dire que tous les couples sont impactés par la naissance d'un nouveau-né, ça amène des réaménagements évidents, mais tous ne vont pas réagir de la même façon. Je dirais que ça concerne, on va dire, 20% hein, des couples qui vont passer par un baby clash. Pour les autres, il va y avoir des turbulences, évidemment, des changements à opérer. Et puis, l'idée, ça va être de pouvoir se reconnecter, de pouvoir partager aussi la tâche ou les tâches un petit peu, les rôles et les fonctions de chacun, notamment dans le quotidien.
Ça se prépare pendant la grossesse, peut-être, non ? C'est peut-être pas plus mal.
Exactement. Déjà, il y a une préparation et c'est pour ça qu'on peut encourager aussi beaucoup de parents ou de futurs parents déjà à pouvoir en parler déjà en amont. Hein, on se met ensemble en couple et puis on va co-construire finalement ce projet de parentalité.
Ça s'anticipe. Je suis sûr qu'il y a plein de futurs parents qui nous regardent, qui disent « Oh oui, il faudrait peut-être qu'on en parle. » Il faut parler de la libido aussi. Élodie nous dit « J'ai accouché il y a plus de 6 mois par césarienne. Ma libido est depuis inexistante. Mon conjoint a du mal à le comprendre. Que pouvez-vous me conseiller ?»
Et à l'inverse, si je peux ajouter quelque chose, dans le cas de Mélina, on voit bien aussi que le père n'a plus de libido pendant la grossesse. Donc déjà, l'image de la femme, elle est fragilisée, elle se sent plus femme à partir du moment où elle est enceinte. Donc tout ça...
Tout ça, ça va jouer, effectivement. Et on voit déjà dans le processus de grossesse, ça va dépendre des femmes. Il y en a qui vont tout à fait bien le percevoir et qui vont, je dirais, investir.
Comprendre.
Voilà, le comprendre, l'investir, cette grossesse, et en faire un levier, même un levier pour leur couple, et qui va parfois décupler leur libido, notamment durant le deuxième trimestre. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce phénomène, on va dire, de difficulté pour certaines femmes à développer leur propre libido, bah, c'est possible parce que parfois, je dirais, on surinvestit déjà ce futur parent qu'on va devenir. Et parfois, il y a aussi pas mal de fausses croyances. Le fait de percevoir ou de croire qu'on ne peut pas avoir de rapport sexuel, par exemple, durant la grossesse, hein, alors qu'en réalité, on peut en avoir à tous les moments.
Mais là, le cas des jeunes couples, comme Élodie, concrètement, ça fait 6 mois, elle n'a plus de libido. Elle vous demande des conseils concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, des conseils concrets, c'est de se réapproprier, je dirais, son corps. Hein, on en parlait, cette difficulté d'investissement de son corps. Ça peut passer déjà par ces moments un petit peu de réappropriation, de sensualité aussi, je dirais, d'autosensualité qu'on peut recréer hein, soi-même, mais aussi à deux. Hein,
Sans forcément pénétration, ça que vous voulez dire ? Ça peut être un massage, ça peut être des petites caresses, des trucs.
Tout à fait. C'est déjà cette reconnexion dans le couple entre les deux. Alors, il y a des techniques, par exemple, ce qu'on appelle les massages sans être focus, ou sensualiser, focaliser. On passe d'abord par des premiers contacts sans rapport pénétrant, où on réinvestit, on reconnecte par le corps global, les zones érogènes secondaires, et ensuite on commence à resexualiser. Et c'est que dans un deuxième ou un troisième temps qu'on arrivera à un moment où on va avoir ce moment de pénétration ou autre. Et puis il y a aussi le fait de passer après grossesse et après l'enfantement par une rééducation périnéale.
Question de Sophie. Nous avons un bébé de 6 mois. Comment faire comprendre au papa que j'ai besoin d'être séduite sexuellement en tant que femme sans lui mettre la pression et le faire fuir ? C'est un peu l'inverse de la question
oui,
de tout à l'heure.
Oui, c'est l'inverse, effectivement. Et on voit souvent des hommes qui vont désinvestir parfois, hein, je dirais, leur partenaire parce que, justement, elle est mère et... Ils en oublient le côté femme. Alors comment ? C'est de reprendre cette connexion entre eux, de pouvoir recréer ce lien sensuel, érotique. On parlait tout à l'heure d'éventuels massages sensuels focalisés, qui sont des techniques qui fonctionnent très bien. On peut aussi reprendre son rôle aussi, ou ses rôles un petit peu de séduction. Hein, et je pense que ça, c'est aussi important. Et puis que cet homme arrive à réassocier ces deux facettes de la femme, mais aussi de la mère au travers de sa partenaire. Et puis de créer des petits rendez-vous, des rendez-vous amoureux, des rendez-vous romantiques, de relancer cette dynamique, parce que c'est d'abord un lien émotionnel, avant que ça soit un lien sexuel qui va se mettre en place. Hein.
L'idéal, c'est de faire garder son enfant et puis d'essayer de refaire des sorties.
Exactement.
C'est fréquent, Anna, que ce soit l'homme qui n'ait plus envie ?
Ah oui, moi, ça peut être moitié-moitié. Enfin, moi, j'ai pas du... Oui, ça peut être... Il y a toutes sortes de choses, bien sûr. C'est très fréquent.
Et ça s'explique comment, alors ? C'est parce que, tout à coup, c'est comme dans le cliché, l'homme ne voit plus sa femme que comme une mère, il l'associe à sa propre mère. Qu'est-ce qui se passe dans ta tronche ?
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette problématique parfois oedipienne, hein, qu'on appelle en psychologie, c'est-à-dire que ça devient compliqué pour lui de faire l'amour avec cette femme qui est devenue une mère, parce que ça reviendrait finalement à faire l'amour avec sa propre mère. Il y a quelque chose de très difficile.
Ça se répare, ça, ou c'est mort ?
Alors, bien sûr que ça se répare. Je parle d'un niveau fantasmatique.
Non, c'est mort. Il n'y aura plus jamais de relation sexuelle.
On se dit, à partir du moment où le conjoint, quand même, ne voit plus en tant que femme, c'est compliqué de réparer ça, quoi.
Ça se répare, parce que c'est souvent une transition dans les couples. Hein. Il y a un moment donné où le temps d'investir son rôle, par exemple, de père, et cette fonction de paternalité ou de maternalité, c'est une transition. Et il y a un réaménagement qui se fait, et petit à petit, les choses peuvent se reprendre. Alors bien sûr qu'il faut se reconnecter, parce que malheureusement, certains couples sont dans des stratégies d'évitement. Quand ça ne va pas, bah, ils s'évitent, et là, la reconnexion, elle n'est plus possible.
C'est ça. Hein,
c'est vraiment de réassocier les deux facettes de la femme et de la mère, et puis de l'autre côté aussi, hein, comme vous disiez tout à l'heure.
Et, je voudrais juste ajouter quelque chose aussi, il y a la fatigue qui rentre en jeu. Ah oui. Souvent, les pères sont aussi fatigués, en tout cas, ils sont fatigués, et souvent, ils disent « je suis fatiguée ». Donc, en fait, ils n'ont plus de libido. Mmh. Et en fait, ils disent « j'ai plus de libido parce qu'en fait, je pense que… » etc. Et en fait, quand on replace les couples dans un contexte où, par exemple, ils peuvent dormir une semaine, et en fait, je me rappelle d'un père qui disait « mais en fait, j'ai encore plein de libido.
C'est juste
en fait, j'ai toujours ma femme. Ah, » bah oui, en fait, c'est juste tu dors pas. Ouais. Et quand le manque de sommeil, ça altère aussi profondément.
Bien sûr.
Voilà. Donc,
et ça,
pensez-y
devrait...
juste parce que des fois, les gens imaginent des trucs fous, alors qu'en fait, ils ne dorment pas depuis…
Juste commencer par là. Et à l'inverse, j'étais à une maternité il y a 15 jours, ils m'ont dit que ça arrivait de temps en temps que les sages-femmes entrent dans les chambres au lendemain de l'accouchement et monsieur et madame sont déjà l'un sur l'autre. Donc, il y en a qui
n'ont pas ce genre de problème.
Vous avez assisté à des choses comme ça aussi? C'est sympa.
Ah oui, oui.
Bah, on se dit, tout va bien. Quoi. Quand on voit ça, on préférerait qu'ils attendent la maison.
Oui. Ou alors qu'ils ferment la clé. Quoi. Je sais pas.
Mais on se dit, au moins, voilà un couple qui se porte bien.
Fanny vous dit à partir de quand et qui consulter quand il y a une crise de couple? Quand
alors,
est-ce qu'on s'inquiète, quoi?
J'ai envie de dire dès le début. Dès qu'il y a quand même ce moment où on se sent plus parent, uniquement parent, que en tant qu'homme et femme dans cette relation, il va falloir consulter. Et très rapidement, je dirais même pour mettre en place à la fois ce lien de couple, mais aussi autour de cette complémentarité avec ses fonctions parentales. Donc, j'ai envie de dire, le plus rapidement possible, dès qu'on perçoit qu'il y a des difficultés, à la fois en prévention, déjà même, je dirais, pendant la grossesse. Moi, j'ai pas mal de couples qui viennent me consulter dans cette phase-là, pour des problématiques de libido, pour des problématiques aussi avec des préoccupations autour de l'enfant. Et ensuite, au décours de la grossesse, au moment où, 4-6 mois, là, on commence à reprendre un petit peu ce temps où le bébé aussi passe d'un rythme ultradien à circadien. Hein, ultradien, en gros, t'étais toutes les deux heures, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Et puis circadien, il commence à partir de 4-6 mois à reprendre. Donc, il va falloir un rythme normal. Il va falloir consulter assez rapidement, finalement. Je dirais, dès qu'on en ressent ce besoin-là. Et puis, pour faire tiers aussi, c'est important dans cette relation. Mm-hmm. Pas rester dans cette dynamique où, finalement, on va se perdre un petit peu de vue.
Ouais. Est-ce que faire redémarrer la libido, c'est faire redémarrer le couple, finalement ?
C'est faire redémarrer le couple, mais c'est faire aussi redémarrer, je dirais, le lien et le tissu familial aussi. Je dis ça parce que souvent, on se focalise un peu trop sur les fonctions parentales, surtout à notre époque, avec un surinvestissement de l'enfant, hein, qui est très attendu. Et puis, on en oublie la fonction de couple, à vouloir devenir les meilleurs parents du monde. Finalement, on se perd de vue en tant que couple. Et c'est cet équilibre qui est tout à fait essentiel. C'est pour ça qu'il faut prévoir des rendez-vous, il faut prévoir des temps de rupture aussi, des week-ends, des moments où on part un petit peu, où on confie les enfants, où on se repose aussi, et on partage les tâches, hein, ensemble. C'est tout à fait important.
Sarah vous demande comment faire pour reconstruire une relation de couple très abîmée par les crises causées par l'épuisement parental.
Alors, déjà, c'est de pouvoir se reposer. Je dis ça parce que l'épuisement ou le syndrome de burn-out parental, c'est lié aussi à ce surinvestissement, à cet épuisement et au manque de relais. C'est vrai qu'on est quand même dans cette idée actuellement un peu du couple ou de la famille cocon qui ne va pas forcément toujours pouvoir se faire aider. C'est tout à fait important de se faire aider par des tiers, que ça soit les grands-parents qui ont un rôle aussi à jouer, que ça soit par des nounous, par la famille ou autre, de pouvoir se faire aider à ce niveau-là, ça va permettre des bulles d'aération, d'oxygène pour le couple qui vont lui permettre de réinvestir ensuite le lien émotionnel qu'ils peuvent avoir, sensuel dans un deuxième temps, et puis sexuel aussi, affectif. C'est vraiment le moteur. Le moteur de la famille, c'est le couple. C'est l'affectif, c'est le sexuel aussi. C'est pas que la fonction parentale.
Merci beaucoup à Mélina, la maman de Louis et Zélie, et merci à Sébastien Garnero d'être venu nous voir, ainsi qu'à Anna Roy pour ses excellentes analyses de ce sujet, évidemment très concernant. Voilà, n'hésitez pas à partager ce sujet ou un autre à vos proches, que ça pourrait aider, c'est quand même l'idée, le but de tout ce que l'on fait. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde!